Jules Michelet, Notre France, La France à vol d'oiseau. Nous allons essayer de marquer d'une manière précise le caractère original de tous les points où ont surgi les dynasties féodales. Chaque province obéit visiblement dans son développement historique à l'influence diverse du sol et du climat. La liberté morale est forte aux âges civilisés et la nature dans les temps barbares. Alors les fatalités locales sont toutes puissantes. La simple géographie est une histoire. Le vrai point de départ de la nôtre doit être une division politique de la France, formée d'après sa division physique et naturelle. Nous pouvons raconter l'époque féodale ou provinciale, ce dernier nom la désigne aussi bien, sans avoir caractérisé chacune des provinces. Une géographie toute physique les prendrait selon les bassins et les cours des fleuves, c'est-à-dire pour les bassins principaux de la France en latitude, Seine, Soire, Loire et Garonne. Alors on verrait la Seine couler de Bourgogne en Champagne, Île-de-France et Normandie. La Loire, partie du Forez, coulait entre le Bourbonnais et la Bourgogne, entre le Berry et le Nivernais, et par l'Orléanais, la Touraine, l'Anjou, et la Bretagne arrivèrent à la mer, etc. Cette méthode semble celle des analogues. On suppose que les populations ont coulé avec les fleuves. Mais cela n'est pas exact au Moyen-Âge, où les fleuves n'ont pas été des routes. Sans parler des difficultés physiques, les innombrables péages arrêtaient à chaque pas. Et d'ailleurs, combien sur un même fleuve diffèrent les peuples? Pouillez la Souabe, la Bavière, l'Autriche, sur le même Danube. Sur notre Loire, combien l'Orléanais, la Touraine, l'Anjou se ressemblent peu. La Seine seule a facilité les mélanges et centralisé, harmonisé, tout ce qui lui est venu des différentes parties de la France. Il ne suffit donc pas de tracer la forme géographique des provinces, il y a nécessité de les étudier aussi historiquement sur leurs associations politiques, c'est-à-dire en longitude du nord au midi, et de voir comment l'histoire a violé la géographie. La chose est saisissante surtout dans nos provinces de l'Ouest. Ainsi, la maison d'Anjou, établie au centre de la Loire, d'énergie celtique mais moins exclusive que la Bretagne, a par mariage sauté les hauteurs et pris la Normandie, l'Angleterre et le Poitou, la Guyenne, etc., réclamant même en vain Toulouse et les Pyrénées. Cette méthode historique nous permettra d'observer aussi comment les provinces alternent de caractère et s'aimantent dans toute cette zone de l'Ouest. S'aimantent de l'universalité parisienne à la sérénité de Charles et d'Orléans, de la mollesse de la Touraine à la fermeté intelligente de Saumur et d'Angers, de l'amabilité poitevine à la sauvagerie vénitienne vendéenne, à la sécheresse industrielle et politique de La Rochelle, de la grave Saintonge à la riche et aimable Angoulême, de l'honnêteté de Limoges à l'âpreté spirituelle de Brive. Puis comment les dualités basto-béarnaise, gasco-languedocienne et rouergo-périgord, tragi-comique, font cercle autour de Bordeaux, de l'aimable et indifférente Guyenne. Ces oppositions, ou plutôt ces nombreux contrastes, doivent contribuer à former l'harmonie générale. C'est donc surtout par leurs fruits que ces diverses provinces s'expliquent, je veux dire, par les hommes et les événements que doit offrir leur histoire. Du point où nous nous plaçons, nous prédirons ce que chacune d'elles doit faire et produire. Nous leur marquerons leur destinée, nous les doterons à leur berceau. Et d'abord, contemplons l'ensemble de la France pour la voir se diviser d'elle-même. Montons sur un des points élevés des Vosges ou, si vous voulez, au Jura. Tournons le dos aux Alpes. Nous distinguerons pourvu que notre regard puisse percer un horizon de 300 lieues. Une ligne onduleuse qui s'étend des collines boisées du Luxembourg et des Ardennes au ballon des Vosges. Et de là, par les coteaux vineux de la Bourgogne, au déchirement volcanique des Cévennes, et jusqu'aux murs prodigieux des Pyrénées. Cette ligne est la séparation des eaux. Du côté occidental, la Seine, la Loire et la Garonne descendent à l'océan. Derrière s'écoulent la Meuse au nord, la Saône et le Rhône au midi. Au loin, deux espèces d'îles continentales. La Bretagne, âpre et basse, simple quartz et granit, grand écueil placé au coin de la France pour porter le coup des courants de la Manche. Et d'autre part, la verte et rude Auvergne, vaste incendie éteint avec ses 40 volcans. Les bassins du Rhône et de la Garonne, malgré leur importance, ne sont que secondaires. La vie forte est au nord. Là s'est opéré le grand mouvement des nations. L'écoulement des races a eu lieu de l'Allemagne à la France dans les temps anciens. La grande lutte politique a longtemps été entre la France et l'Angleterre. Ces deux peuples sont placés front à front comme pour se heurter. Et les deux contrées, dans leur partie principale, offrent deux pentes en face l'une de l'autre. Ou si l'on veut, c'est une seule vallée dont la Manche est le fond. Ici, la Seine et Paris. Là, Londres et la Tamise. Mais l'Angleterre présente à la France sa partie germanique. Elle retient derrière elle les Celtes de Galles, d'Écosse et d'Irlande. La France, au contraire, oppose un front celtique à l'Angleterre. Chaque pays se montre à l'autre parce qu'il a le plus hostile. L'Allemagne n'est point opposée à la France. Elle lui est plutôt parallèle. Le Rhin, l'Elbe, l'Oder vont aux mers du Nord, comme la Meuse et l'Escaut. Pour la France romaine et ibérienne, quelle que soit la splendeur de Marseille et de Bordeaux, elle ne regarde que le vieux monde de l'Afrique et de l'Italie, et d'autre part le vague océan. Le mur des Pyrénées nous sépare de l'Espagne, plus que la mer ne la sépare d'elle-même de l'Afrique. Lorsqu'on s'élève au-dessus des pluies et des basses nuées jusqu'au port de Venasque, et que la vue plonge sur l'Espagne, on voit bien que l'Europe est finie. Un nouveau monde s'ouvre. Devant l'ardente lumière d'Afrique, et derrière un brouillard ondoyant, sous un vent éternel. En latitude, les zones de la France se marquent aisément par leurs produits. Au nord, les grasses et basses plaines de Belgique et de Flandre, avec leurs champs de lin et de colza, et le houblon, leurs vignes, amères du nord. De Reims à la Moselle commence la vraie vigne et le vin. Tout esprit en Champagne, bon et chaud en Bourgogne, il se charge, s'alourdit dans Languedoc pour se réveiller à Bordeaux. Le mûrier paraît à Montauban. En longitude, les zones ne sont pas moins marquées. Nous verrons les rapports intimes qui unissent comme une longue bande les provinces frontières des Ardennes, de Lorraine, de Franche-Comté et du Dauphiné. La ceinture océanique, composée d'une part de Flandre, Picardie et Normandie, d'autre part de Poitou et Guyenne, flotterait dans son immense développement si elle était serrée au milieu par ce dur nœud de la Bretagne. On l'a dit, Paris, Rouen, Le Havre sont une même ville dont la Seine est la grande rue. Éloignez-vous au midi de cette rue magnifique où les châteaux touchent aux châteaux, les villages aux villages. Passez de la Seine inférieure au Calvados et du Calvados à la Manche. Quelles que soient les richesses et la fertilité de la contrée, les villes diminuent de nombre, les cultures aussi, les pâturages augmentent. Le pays est sérieux, il va devenir triste et sauvage. Aux châteaux altiers de la Normandie, vont succéder les bas manoirs bretons. Le costume semble suivre le changement de l'architecture, le bonnet triomphal des femmes de Caux, qui annonce si dignement les filles des conquérants de l'Angleterre, s'évase vers Caen, s'aplatit des villes-dieu. À Saint-Malo, il se divise et figure au vent, tantôt les ailes d'un moulin, tantôt les voiles d'un vaisseau. D'autre part, les habits de peau commencent à l'aval. Les forêts qui vont s'épaississant, la solitude de la trappe, où les moines mènent en commun la vie sauvage, les noms expressifs des villes, Fougères et Rennes. Rennes veut dire aussi Fougères. Les eaux grises de la Mayenne et de la Vilaine, tout annonce la rude contrée. Eh bien, c'est par là, toutefois, que nous voulons commencer l'étude de la France. L'aînée de la monarchie, la province celtique, mérite le premier regard. De là, nous descendrons aux vieux rivaux des Celtes, aux Basques ou Ibères, non moins obstinés dans leurs montagnes que le Celte dans ses landes et ses marais. Nous pourrons passer ensuite aux pays mêlés par la conquête romaine et germanique. Et nous aurons étudié la géographie dans l'ordre chronologique et voyagé à la fois dans l'espace et dans le temps.